Culture vin, les vins du Languedoc-Roussillon en particulier et la civilisation du vin en général. Une coproduction Divergence FM, vitisphère.com. Au sommaire de Culture Vin, cette semaine un focus sur la viticulture dans le département de l'Hérault qui est le plus gros producteur en France après la Gironde. Si mes informations sont exactes, nous recevons pour en parler Henri Cabanel. Bonjour Monsieur Cabanel.
Bonjour.
Bonjour à tous. Viticulteur, conseiller général du département de l'Hérault en charge des questions vitivinicoles et Grégory Autin. Bonjour Grégory.
Bonjour.
Le responsable de l'observatoire viticole de l'Hérault.
Voilà, c'est bien ça.
Nous aurons en direct ensuite par téléphone de Rioja en Espagne, Michel Raimonda, qui nous fera un point sur ce rendez-vous international où de nombreux experts sont réunis pour tracer la route du marché des vins dans les années à venir. On verra ce que ça va donner. Et parmi ces experts, le fameux Robert Parker qui continue de faire la pluie et le beau temps dans le monde du vin. Alors, on verra, hein. Michel va assister à une dégustation, il va nous dire un petit peu tout à l'heure par téléphone si c'est bien, si c'est pas bien, s'il faut continuer à parkériser, ou je pense que Henri Cabanel aura des choses à dire là-dessus. C'est Anne Serre, notre chroniqueuse bien informée sur le sujet, qui va nous éclairer sur ce nouveau goût, ce fameux goût américain qui fait les adeptes chez les producteurs, marché oblige, revenu sonnant et trébuchant aussi. Bonjour Anne.
Bonjour Christian.
Et puis Florent Robin, notre littéromane divergent, nous fera partager le goût du vin selon Charles Baudelaire avec deux textes choisis. Enfin, la revue de presse de Catherine Bernard qui aborde aujourd'hui, entre autres sujets, la jet set avec Karl Lagerfeld, un couturier qui, semble-t-il, a une idée très précise du comment mettre le vin dans un écrin. Mais avant de questionner nos deux invités, Henri Cabanel et puis Grégory Autin, sur la viticulture héroltaise, écoutons cette musique composée par les Rhinocéros, artistes héroltais mondialement connus, installation sonore. La Galette est sortie en 99 au siècle dernier chez V2 Musique, le mobilier. C'est le titre du morceau. Les rhinocéros. On a mal l'habitude d'écouter ce genre de musique quand on parle de vin. Ben, changeons les habitudes à Culture Vin sur Divergence FM en coproduction avec vitisphère.com. Henri Cabanel,
oui.
Je suis ravi de vous recevoir aujourd'hui parce que le département, je le disais en lancement, le département de l'Hérault est le plus important producteur de vin en France après la Gironde. C'est pas une paille, ça. Donc ça veut dire que dans ce département, on produit du volume. Est-ce que volume et qualité vont ensemble ? Première question.
Je ne vois pas pourquoi ça n'irait pas bien ensemble, même si, effectivement, dans l'esprit des gens, ça peut être confus. Mais aujourd'hui, le maître mot de tous les viticulteurs de ce département et de cette région, c'est effectivement la qualité avant tout. Et la qualité, on peut la faire à travers les 22 pays avec un volume un peu plus important que les AOC, mais la qualité y est. Vous savez, quand j'étais allé au Chili, j'étais impressionné effectivement par la viticulture chilienne et j'avais demandé à un producteur là-bas, mais pour vous, c'est quoi la qualité ? Mais le monsieur m'a dit, c'est tout simple, hein, la qualité c'est un produit exempt de défauts qui correspond à un marché. Et je pense que aujourd'hui, nous sommes dans cette démarche puisque nous avons fait de gros efforts de réencépagement dans toute cette région et ce département. Et nous pouvons dire aujourd'hui que nous avons des vins de qualité partout, que ce soit chez les viticulteurs indépendants ou dans les caves coopératives.
Donc on va pas se cacher derrière notre petit doigt. On sait très bien que la viticulture traverse une crise que moi je peux qualifier de structurel, hein. Et alors est-ce que on peut, est-ce que dans le alors vous à l'Observatoire viticole de l'Hérault, est-ce que vous observez à un moment donné une possibilité, peut-être Grégory pourrait répondre à cette question, quelles sont les pistes de sortie pour les vins de l'Hérault, en tout cas de cette crise structurelle?
Alors, dans le cadre de l'Observatoire, on travaille avec les professionnels du département pour justement travailler ensemble sur ces pistes de sortie, sur différentes thématiques sur lesquelles on peut avancer. Alors, ces pistes, elles sont de différentes natures. Bon, l'Observatoire, il a un rôle d'information, de veille du marché du vin, aussi bien au niveau du département, du Languedoc, national et aussi international, en complémentarité avec ce qui se fait par les autres organismes. Alors,
vous pensez à qui, les autres organismes ? Les coopérateurs, les syndicats, non ?
France Agrimaire, voilà. C'est, après, on travaille avec l'Institut agronomique méditerranéen de Montpellier, Montpellier Supagro, avec des acteurs locaux, aussi bien l'enseignement, la recherche, des acteurs institutionnels. On travaille ensemble dans le cadre d'un comité de pilotage, l'Observatoire, qui se réunit tous les ans, et des commissions thématiques pour suivre les différents sujets. Alors, on avait par exemple mis en place un groupe de travail sur le conditionné pour voir est-ce qu'il faut favoriser le conditionné, quels sont les produits qui marchent en conditionné.
Et le bag-in-box, ça marche très bien, ça.
Ça marche très bien. Ces enquêtes nous ont montré d'ailleurs sur ce sujet que souvent les prix n'étaient pas assez élevés par rapport au coût de revient. Donc ce sont des éléments.
Non, ils vont encore nous augmenter le prix du vin. Tout augmente.
Et non, mais c'est pour après les professionnels globalement peuvent s'y retrouver avec les marges faites sur la bouteille. Oui. Mais c'est vrai que le bag-in-box en soi, quand on calcule son coût de revient et le prix qui est réalisé auprès du consommateur, c'est quand même un prix qui est relativement faible. C'est pour cet engouement vers ce produit qui correspond aujourd'hui à ce mode de consommation plus occasionnel.
Oui, c'est ça. On n'est pas dans la poésie d'une bouteille qu'on a chaleureusement gardée, pas au coin du feu, mais enfin au fond de la cave. C'est une autre consommation. Mais ça, c'est pas le plus gros de la production, ce qui part en bag-in-box.
Non, souvent, on parle de bouteille, mais c'est le produit final. Nous, on travaille, c'est vrai, avec les professionnels de la viticulture. Et l'Hérault, c'est quand même un marché de vrac, marché de vin en vrac. 70%.
Ah, voilà une information.
70% du vin est commercialisé en vrac. Après, ce vrac, il va chez des opérateurs nationaux, et même essentiellement, les grands chefs de France, Castel, mais aussi, bon, il y a des opérateurs de négoces régionaux, mais c'est du vrac.
Qui, eux, embouteillent sous leur marque, en fait.
Après, eux, ils embouteillent sur leur marque, effectivement.
C'est ça.
Donc, ce marché du vrac, il ne faut surtout pas l'oublier, et c'est vrai que c'est quelque chose qui, auprès du consommateur, est méconnu. est méconnu. Et donc, c'est vrai qu'un gros travail des producteurs héraultais, c'est de travailler sur la valorisation de ce vrac. Dans le Gers, ils y sont arrivés avec le blanc. Ils ont réussi à valoriser le blanc et à gagner de l'argent sur du blanc.
Alors, valoriser, alors qu'on comprenne bien, ça prend quelle forme ?
Valoriser ?
Oui. Quand vous dites on va valoriser le vrac,
c'est valoriser, ça veut dire on va gagner de l'argent sur du vrac, c'est-à-dire qu'on va réussir à faire un produit dans le cadre d'un cahier des charges qui permettra de gagner de l'argent et avec des coûts de revient réduits, c'est-à-dire avec des techniques de production aussi adaptées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la viticulture est obligée de s'ouvrir à de nouvelles techniques de production, à augmenter les rendements. Il faut sortir de cette idée que on fera des bons vins qu'avec des petits rendements. La viticulture
c'est l'idée, ça. Hein. En général, vous dites plus de quand vous êtes à 35, vous me dites, vous me contrôlez. Je parle sous le contrôle de tous autour de la table. À 35 hectares, on dit oh, c'est un vin de qualité. Dès qu'on dépasse ou plus, Anne, je ne sais pas. Là-dessus, la quantité de jus qu'on peut avoir sur un hectare, qualité, pas qualité.
Oui, enfin, il est prouvé qu'une baisse des rendements permet une concentration de la matière contenue dans les raisins, permet de faire des jus, d'obtenir des jus plus concentrés, plus riches en matière. Fixer une limite arbitrairement, dire en dessous de 35 hectares, ça dépend du sol, du cépage, de quantité de choses. C'est là au contraire, plutôt aux vignerons de s'adapter à chaque parcelle, à chaque cas. Ensuite, bon, on sait maintenant que des rendements à trois chiffres, ça ne permet pas de faire des vins de qualité. Ce sont des vins qui ont une autre destination.
Mais effectivement, quand on parle de rendement, ça ne veut pas dire que le fait de faire des petits rendements, on est sur des vins d'excellente qualité. Exemple, cette année, par rapport à certains terroirs, où on a connu une année relativement sèche, on sait très bien que la vigne a beaucoup trop souffert dans certains endroits, la maturité s'est bloquée, et pour autant, ça ne fait pas un vin d'excellente qualité derrière.
Oui, c'est ce qu'on appelle le stress hydrique de la vigne.
Hein. Il faut que vraiment il y ait un équilibre. Après, concernant les rendements, il y a une réglementation à travers les appellations d'origine contrôlée, une réglementation à travers les 22 pays. On est sur des rendements différents, mais on est sur des produits différents. Mais produits différents ne veut pas dire de mauvaise qualité pour les uns et de bonne qualité pour les autres. Il y a d'excellents 22 pays à des rendements, disons, autour de 80 hecto-hectares, et il y a d'excellents produits à des rendements au-dessous de 40, voire 20, 30 hecto-hectares. Ça dépend un petit peu le produit que l'on recherche et le marché que l'on a en face, hein, effectivement. Mais c'est des produits différents qui sont quand même tous les deux de qualité.
Il y a une chose importante à dire, dans l'Hérault, on est quand même sur une majorité de production de 20 pays. C'est vrai qu'on parle souvent de vin et d'AOC, mais l'Hérault, c'est le premier département français en termes de production de 20 pays et de 20 tables. Donc certes, c'est le deuxième en termes d'appellation, en termes tout
de
produit,
volume, de volume.
Voilà,
oui.
En termes volume, tout vin confondu, mais en termes de 20 pays et 20 de table, on est quand même le premier département. Et c'est vrai que sur les rendements, on est quand même loin du compte. Parce que bon, on est la moyenne, on est environ à 70 hecto-hectares en toute année confondue, ce qui est loin des 90 limites. Donc bon...
Tu parles en vin de pays.
Oui, hein. En vin de pays.
Voilà. Donc les vins de pays qui ont une réglementation, notamment au niveau des vins de pays d'eau qui peuvent aller jusqu'à 80 hecto-hectares, on est sur des rendements quand même très inférieurs, ouais. De l'ordre de 65 à 70 hecto-hectares de moyenne.
Est-ce qu'il n'y a pas... C'est une vraie question. Hein. Ne croyez pas qu'il y a quelque chose de caché là derrière. Mais je mets les précautions. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de contradiction justement là? D'un côté, on est dans un département qui donc produit beaucoup, qui produit beaucoup de vins de pays, et en même temps, on observe une déculturation de la consommation quotidienne de vin et une acculturation d'une consommation de vin, on va dire, plus choisie, hein, où on va pas forcément vers le vin de pays, on va dire le vin quotidien, etc., mais vers une bouteille qu'on va choisir, qui va être, alors que ce soit, on peut trouver de très bons vins de pays, je suis d'accord, mais enfin, quelque chose de plus complexe, etc. Et donc, là, dans cette crise, parce qu'il y a la crise qui est liée à des coûts de production, le coût du pétrole qui augmente, les matières premières, les intrants dans la vigne, etc., Mais il y a aussi cette crise de consommation qui, elle, est vraiment structurelle, avec une baisse culturelle de la consommation dans différentes tranches d'âge. Donc la question, c'est comment on fait par rapport à ça ? C'est-à-dire, d'un côté, on parle de valorisation. Alors, on peut parler de valorisation économique, mais il faut aussi valoriser le produit, hein, c'est-à-dire ce qu'on va proposer à la bouche, au nez, au gosier, au sensitif. Et en même temps, on produit beaucoup de vins de pays. Ça vous... Non ?
Non.
Ou alors je m'égare dans des...
Non. On est sur différentes productions. Alors, vous avez parlé effectivement de la bouteille que l'on va boire entre amis, avec un certain climat, au niveau convivialité, j'entends. Une bouteille adaptée à certains mets, etc. Donc, on aura affaire à des connaisseurs qui vont apprécier le vin qu'ils boivent par rapport à ce qu'ils vont manger. Et puis, il y a le côté festif autour du vin, convivialité. Donc moi, par exemple, ce soir, sur mon territoire, on va fêter les vins nouveaux en Côte de Tongue. On est une pleine salle des fêtes d'invités où, effectivement, autour du vin, on va boire un coup. Il va y avoir de la gaieté, de la convivialité. On va s'amuser. Donc c'est deux choses différentes. Mais il y a la place pour tout le monde. Et c'est ce qu'il faut bien apprécier. Alors effectivement, vous dites beaucoup de vins, mais il faut quand même savoir que le département de l'Hérault, il y a 25 ans à peine, produisait le double de ce qu'il produit. Aujourd'hui, la région Languedoc-Roussillon, bientôt, nous allons faire nos déclarations de récolte, les uns et les autres. On annonce moins de 12 millions d'hectolitres sur la région Languedoc-Roussillon, alors que dans les années 85, on était à 23, 24 millions d'hectos. Donc il y a quand même une diminution. Quand vous parlez de diminution de consommation, effectivement, il y a une diminution de consommation en France et dans les pays producteurs essentiellement. Mais au niveau mondial, il y a un équilibre entre la production et la consommation, voire une légère augmentation de la consommation. Très marginale, certes, mais un équilibre certain. Donc, ça veut bien dire que au niveau des marchés, notamment pour les vins français, on est en train de perdre pas mal de parts de marché, au détriment donc des pays du Nouveau Monde, des nouveaux producteurs, mais la consommation s'équilibre. Alors forcément en France, on a une consommation qui diminue, mais bon, je ne vais pas vous l'apprendre à vous, vous pouvez vous le constater au quotidien. Malheureusement, on a diabolisé le vin, notamment à travers donc les luttes au niveau des accidents de la route, etc. Alors que on sait très bien que c'est pas le premier facteur des accidents de la route, le vin. Il faut quand même le rappeler. Mais on focalise sur le vin parce que il me semble que...
Attendez, quel est le premier facteur des accidents de la route ?
La vitesse.
Ah, on est bien d'accord. D'accord.
Et oui.
C'est ça.
Et oui. Donc, moi, je veux bien qu'aujourd'hui...
Je croyais que vous alliez dire le whisky.
Non. Mais même, écoutez, lors du dernier Dionysus Sud à Béziers, nous avions donc le conseiller général un stand et monsieur le préfet de l'époque passé de stand en stand, et dans les propos qu'il avait tenus en ouverture de ce salon, quand il est arrivé donc sur notre stand, je lui ai dit « Monsieur le préfet, vous avez parlé des accidents de la route, de l'alcool au volant, mais pouvez-vous me définir dans les accidents dus à l'alcool qui représentent un quart des accidents ?» La part du vin dans ces... parce que vous me parlez souvent des jeunes qui se tuent le samedi soir, ou plutôt le dimanche tôt, le matin, quand ils rentrent chez eux. Je suis désolé, mais quand ils sortent de boîte, hein, ils n'ont pas bu du vin.
Alors le jour où dans les boîtes de nuit, on servira du vin rouge... Alors moi, je retourne en boîte. Hein.
Il y a eu des exemples.
Avec des petits bouts de fromage, un petit bout de saucisson, ça serait sympa, ça, avec du pain. Ça changerait le... Hein. Et si on peut écouter de la musique en buvant du vin, ça, c'est possible aussi. Ouais.
Il y a eu des tentatives, mais à ma connaissance, ça n'a pas duré. Il y a eu des opérations de promotion, mais ça n'a jamais vraiment abouti. Moi, je voulais revenir sur l'idée que dans l'Hérault, c'est vrai, on est un gros producteur de vin, et le fait que la population héraultaise soit pas sensibilisée à cette culture du vin, alors que bon, on est quand même
un pays de vignes.
Un pays de vignes. Bah, c'est vrai que c'est lié au fait que bon, bah, la population qui arrive dans ce département n'est pas issue de cette région, et on manque. on manque de lien quoi, entre cette culture urbaine et cette culture viticole. Bon, le département soutient des opérations de promotion à travers les syndicats, à travers des manifestations, les randonnées qu'on peut faire dans les vignes, hein, organisées par les caves coopératives ou les syndicats, mais ça ne suffit pas. C'est vrai qu'il y a encore du travail à faire sur la consommation nationale, et c'est vrai que je pense que beaucoup d'entreprises viticoles ont encore à travailler sur ce marché viticole national. On ne doit pas l'oublier. L'export, c'est bien.
Et oui,
on doit continuer.
Ça.
Mais le marché national, c'est très important aussi.
Mais je tiens quand même à souligner que beaucoup d'efforts ont été faits, notamment durant ces deux dernières décennies, où on peut constater, par rapport à l'habitude qui était faite sur notre territoire et nos viticulteurs, on peut constater aujourd'hui que nos viticulteurs sont fiers de présenter leurs produits. Et une multitude de caveaux se sont ouverts, qu'ils soient chez les vignerons indépendants ou dans les caves coopératives, alors qu'ils n'existaient pas il y a 20 ans. Et aujourd'hui, dans n'importe quelle cave coopérative et presque dans toutes les caves particulières, il y a des caveaux où effectivement le viticulteur peut faire déguster les produits et peut faire apprécier donc tout ce qu'il est capable de faire au niveau de la clientèle. Et ça n'existait pas il y a encore 20 ans. Et les élus en place, qu'ils soient locaux ou des collectivités territoriales, notamment comme le département de l'Hérault, le conseiller général, a aidé ces viticulteurs à construire ces caveaux pour mettre en avant donc la qualité de leurs produits. Et ça, c'est quand même un effort important qui a été fait, qu'il faut le souligner.
Alors, on en parlait tout à l'heure avant d'être à l'antenne. Il y a quand même, je vais rebondir sur ce que vous dites et sur ce que disait Grégory, on a quand même un souci dans ce département, je vous le disais tout à l'heure. Si je vais dans un bar, que je m'assois à la terrasse ou en salle et que je dis je voudrais un verre de vin rouge, il y a 9 chances sur 10, si je ne suis pas dans un bar à vin, il y a 9 chances sur 10 qu'on m'amène, on ne me demande pas ce que je veux, et qu'on m'amène un verre de vin rouge, et voilà, et je ne sais pas ce que c'est, parce que la personne ne connaît pas le truc. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas un boulot à faire de la part des interprofessions je ne sais pas, moi, tout le monde s'y met pour essayer de faire pour que cette culture, elle continue à vivre dans les villes, justement, parce que c'est bien que dans les vignes, dans les caves, les particulières, les coopératives, on fasse des caveaux, etc. Le no-tourisme se développe, donc les gens vont. Mais il faut aussi qu'en ville, on puisse faire vivre cette culture. Ça serait pas une mauvaise idée, ça, non?
Oui, mais vous venez de le souligner à l'instant. Vous avez parlé de bar à vin. Les bar à vin, il n'y a pas longtemps qu'ils existent.
Hein. Ah, c'est sûr. Et ça marche bien.
Donc ça marche bien, et c'est un pas, justement, dans la culture du vin, qui n'existait pas il y a quelques années. Donc c'est un avancement, dirons-nous, important pour la profession, parce que là, effectivement, ce sont des consommateurs qui apprécient le vin, qui se retrouvent dans un bar à vin, alors que ça n'existait pas. Alors, effectivement, il doit y avoir encore beaucoup de travail à faire, que ce soit chez nos professionnels de la distribution d'alcool ou chez les restaurateurs, pour mettre en avant encore plus les produits de notre région, de notre département. Mais je pense que beaucoup d'efforts ont été faits et qu'ils sont quand même positifs, même s'il reste encore beaucoup de choses à faire.
Oui, non, mais c'est sûr, il reste toujours des choses à faire. C'est work in progress, comme on dit en bon français. Grégory, piste de progrès pour de la part de l'Observatoire viticole. Donc, valorisation, vous dites?
Oui, après, un des points sur lequel il faut absolument que la profession viticole du département et de la région, parce que bon, on parle du département, mais c'est une réflexion régionale qu'il faut aussi mener, c'est l'organisation de nos producteurs. Certes, les caves coopératives s'organisent, certes, il y a encore du travail énorme à faire en termes d'organisation. Le Conseil général a soutenu la création de groupements de producteurs pour aller à l'export. Ce sont des initiatives. On n'a pas la solution unique pour sortir de la crise, on le sait bien. Si la solution, on l'avait, elle serait déjà connue et on l'appliquerait déjà depuis un moment. On essaie de travailler sur plusieurs domaines. On travaille sur le no-tourisme, on travaille sur l'organisation économique pour aller à l'export. On organise des colloques et des soirées thématiques dans le cadre de l'Observatoire pour aussi que les producteurs aient connaissance de ce qui se passe ailleurs. Parce que, bon, comme je disais aussi avant cette émission, le monde viticole est mondialisé. La viticulture hérotaise ne peut pas se raisonner à l'échelle juste de l'Hérault ou du Languedoc. Il faut savoir ce qui se passe ailleurs. La Chine, l'Inde, le Brésil sont des nouveaux acteurs. Il faut les connaître.
Grégory, on va en parler, tout à l'heure. Mais pour l'instant, on va faire une petite pause avec la littérature. Vous savez que dans cette émission, c'est rythmé. On attend un fauneur de Rioja, de Michel Raymonda. Mais pour l'instant, c'est la petite pause littérature dans cette émission avec Florent Robin qui va nous dire comment Baudelaire lui envoyait l'idée du vin dans ses mots.
Bonjour à tous. Effectivement, Charles Baudelaire a beaucoup parlé de vin, entre autres dans Les Fleurs du Mal, mais nous ne parlerons pas des Fleurs du Mal ce matin. J'ai choisi un autre texte, un peu moins connu, qui s'appelle « Du vin et du haschich, comparé comme moyen de multiplication de l'individualité ». Et je parlerai plus particulièrement du vin, donc, ce matin. « Profonde joie du vin, qui ne vous a connu ? Quiconque a eu un remords à apaiser, un souvenir à évoquer, une douleur à noyer, un château en Espagne à bâtir, tous enfin vous ont invoqué, Dieu mystérieux caché dans les fibres de la vigne. Qu'ils sont grands les spectacles du vin illuminés par le soleil intérieur. Quelle est vraie et brûlante cette seconde jeunesse que l'homme puise en lui. Mais combien sont redoutables aussi ces voluptés foudroyantes et ces enchantements énervants. Et cependant, dites, en votre âme et conscience, juges, législateurs, hommes du monde, vous tous que le bonheur rend doux, à qui la fortune rend la vertu et la santé facile, dites, qui de vous aura le courage impitoyable de condamner l'homme qui boit du génie ? D'ailleurs, le vin n'est pas toujours ce terrible lutteur sûr de sa victoire, ayant juré de n'avoir ni pitié ni merci. Le vin est semblable à l'homme. On ne saura jamais jusqu'à quel point on peut l'estimer et le mépriser, l'aimer ou le haïr, ni de combien d'actions sublimes ou de forfaits monstrueux il est capable. Ne soyons donc pas plus cruels envers lui qu'envers nous-mêmes et traitons-le comme notre égal. Le vin, comme un pactole nouveau, roule à travers l'humanité languissante un or intellectuel. Comme les bons rois, il règne par ses services et chante ses exploits par le gosier de ses sujets. Deuxième extrait. Le vin est connu de tous. Il est aimé de tous. Quand il y aura un vrai médecin philosophe, chose qui ne se voit guère, il pourra faire une puissante étude sur le vin, une sorte de psychologie double dont le vin et l'homme composent les deux termes. Il expliquera comment et pourquoi certaines boissons contiennent la faculté d'augmenter outre mesure la personnalité de l'être pensant et de créer, pour ainsi dire, une troisième personne. Opération mystique où l'homme naturel et le vin, le dieu animal et le dieu végétal, jouent le rôle du père et du fils dans la Trinité. Ils engendrent un Saint-Esprit qui est l'homme supérieur, lequel procède également des deux. Il y a des gens chez qui le dégourdissement du vin est si puissant que leurs jambes deviennent plus fermes et l'oreille excessivement fine. J'ai connu un individu dont la vue affaiblie retrouvait dans l'ivresse toute sa force perçante primitive. Le vin changeait la taupe en aigle. Un vieil auteur inconnu a dit « Rien n'égale la joie de l'homme qui boit si ce n'est la joie du vin d'être bu. » En effet, le vin joue un rôle intime dans la vie de l'humanité, si intime que je ne serais pas étonné que, séduit par une idée panthéiste, quelque esprit raisonnable lui attribuasse une sorte de personnalité. Le vin et l'homme me font l'effet de deux lutteurs, amis sans cesse combattants, sans cesse réconciliés. Le vaincu embrasse toujours le vainqueur. Il y a des ivrognes méchants. Ce sont des gens naturellement méchants. L'homme mauvais devient exécrable, comme le bon devient excellent.
J'aspire un jour à te garder, toi qui m'inspires jusqu'à m'en essouffler. Je pourrais tant te dire en refrain, en couplet, mais les mots ne sont que de l'air que je sais te souffler. «
Désire-moi, aime-moi pour longtemps. J'ai coulé le sablier au fond de l'étang. Désire-moi, aime-moi pour longtemps. J'ai coulé le sablier au fond de l'étang. J'ai remis les clés dans la poche revolver. Heureux d'avoir été un temps pensionnaire. J'ai repris ma veste à son revers et rangé le reste dans le vestiaire. Désire-moi, aime-moi pour longtemps. J'ai coulé le sablier au fond de l'étang. Désire-moi, aime-moi pour longtemps. J'ai coulé le sablier au fond de l'étang. L'écran a repris l'éclat des cristaux, demoiselle. Du licra s'est tendu pour tes dentelles. Ce ventre que tu laissais en jachère a vu ta côte grimper à mes enchères. Désire-moi, aime-moi pour longtemps. J'ai coulé le sablier au fond de l'étang. Désire-moi, aime-moi pour longtemps. J'ai coulé le sablier au fond de l'étang.
Désire-moi, aime-moi pour longtemps. J'ai coulé le sablier au fond de l'étang. Désire-moi, aime-moi pour longtemps. J'ai coulé le sablier au fond. Désire-moi, aime-moi pour longtemps. J'ai coulé le sablier au fond de l'étang.
Dimonet, on l'adore, encore un artiste héroleté, décidément. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'héros. Anne Serre, on va parler, on va pas parler d'héros, on va parler de Robert Parker, parce que Robert Parker est partout, et qu'il est même à Rioja, en Espagne, pour ce rendez-vous international dont nous parlera Michel par téléphone d'ici quelques minutes. Comment ça se fait que ce Robert Parker est partout ?
Robert Parker fait accourir le monde du vin dans la Rioja. Wine Future est apparemment un immense succès, et notamment parce qu'il y a cette affiche avec Robert Parker. Robert Parker, on l'appelle le gourou du vin, le gourou américain. C'est cet homme qui donne des notes sur 100 et qui, en dégustant les vins systématiquement à l'aveugle. Et pour un producteur, avoir une note en dessous de 70 sur 100, il faut pas en parler. Avoir une note au-dessus de 90, on est sûr de vendre toute sa récolte. Quand on a 100, on vend toute la récolte et on peut multiplier le prix par 3 ou 4. C'est aussi simple que ça. À ce niveau-là, l'influence de Parker est telle à travers le monde. Elle est partie des États-Unis, de riches consommateurs américains qu'il savait contacter et influencer. Ça s'est étendu à l'Asie. Les marchés asiatiques sont extrêmement attentifs aux notes que délivre Robert Parker, et ça influence sur un certain, ça génère sur un certain nombre de crus une note de 100%, une compétition pour avoir les bouteilles qui fait grimper les prix de façon déliante. Quand Robert Parker ne juge pas un millésime, ça a été le cas en 2002, Bordeaux doit baisser ses prix.
C'est Dieu ?
En quelque sorte, c'est Dieu, en tout cas.
Je vois Henri Cabanel qui fait oui de la tête, mais en même temps, après avoir fait le oui de la tête, il fait non, comme ça. On sent que ça, hein.
Oui, parce que je suis dépité d'atteindre ça, parce que c'est vrai que juger sur le goût d'une personne, les goûts, les couleurs appartiennent à tout le monde. Effectivement, on peut juger un vin sur ses qualités phénoliques, sur la technicité du process de vinification. Donc, il y a des, mais après, le goût, il appartient à chacun. Et là, on est en train d'homogénéiser un goût par rapport à un monsieur.
C'est ça qui est devenu assez malsain dans la démarche de Robert Parker.
C'est ce fameux goût américain. Hein,
c'est que la puissance économique qui découlait de ces notes, la puissance économique, le levier économique qu'il imprimait sur la demande d'un certain nombre de grands crus bien notés, en a fait une référence en termes de goût, un maître étalon, auquel une grande partie de producteurs se sont soumis. Une grande partie de producteurs aussi, de nouveaux producteurs ont adhéré, parce qu'il y a une espèce de projet politique très américain, très self-made man derrière la démarche de Robert Parker. On déguste à l'aveugle. n'importe qui, pas seulement les grands noms, peut en 10 secondes, si le palais de Parker est d'accord, accéder au rang peut-être pas de grand cru, mais en tout cas de super premium, c'est-à-dire de vins qui se vendent au-dessus de $20 aisément sur le marché américain.
Mais alors, si vous aviez Henri Cabanel, admettons, un de vos vins avait une note de 85 chez Parker, vous diriez « Ouais, c'est bon, ça va » ou vous seriez quand même content ?
Mais moi, déjà, au départ, je ne lui ferai pas déguster.
Et toi, mais il ne va pas vous le demander.
Non, non, mais même, si je suis contre ce principe. Et je pense que les viticulteurs eux-mêmes sont capables...
Ah, un instant, on a Riora. Ah ben, on a Riora en ligne. Excusez-moi, je vous interromps.
C'est pas grave.
Michel ?
Oui, bonjour.
Michel Raymonda, bonjour. Alors, qu'est-ce qui se passe à Riora ?
Qu'est-ce qui se passe à Riora ? On est venu pas pour le football, on n'est pas venu pour les corridas forcément, on est venu sans doute pour le vin. Donc ici on est à Logrono en fait, et il y a une conférence très, très internationale qui rassemble plus de 1000 personnes que les professionnels du vin. Bref, c'est un moment très très fort je crois pour toute la viticulture, et on est assez content d'être là parce que c'est en quelques heures, une ouverture sur le monde.
Alors, on était en train de parler de Robert Parker.
Ouais.
J'imagine que tu as assisté à une dégustation.
Ouais, c'est ma première fois que j'ai rencontré Robert Parker, donc c'était bon, il y avait un côté un petit peu étonnant, mais on a assisté à une dégustation vraiment très très forte, avec plus de, on a dégusté, je crois, 20 vins. Tous autour du Grenache. C'était un sujet intéressant puisque le Grenache est un des grands cépages du sud de la France, un grand cépage des Côtes-du-Rhône. Et donc, Parker avait choisi ça comme thème, et c'était très intéressant de comparer les Grenaches de nos régions à celles de... Bon, on a vu des vins qui contiennent le Grenache de la Riora, mais aussi d'Australie ou de Californie. Bref, un truc très étonnant.
Et alors,
je pense que ça marquera le congrès. C'était un peu...
Ah, la ligne nous a lâché. Là, on va réessayer d'avoir tout à l'heure Michel Raymonda. Ce sont les joies du direct. Ah, Henri Cabanel. Michel Raymonda a l'air d'être soufflé, puisqu'il a assisté à une dégustation de Robert Parker. Décidément, alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de situation ? C'est vrai que moi, j'entends votre démarche qui est de dire la subjectivité ne doit pas être érigée en règle.
Oui.
J'ai bien compris ce que vous disiez.
Oui, c'est ça.
Et puis j'ai au bout du fil Michel dont la technologie nous a fait couper sa voix, mais le Michel qui nous dit j'ai assisté. Alors on peut pas dire que Michel soit un apôtre de Parker spécialement, mais c'est quand même quelqu'un d'équilibré, Michel Raymonda. Et là il a l'air d'être soufflé sur du Grenache ou sur c'est étonnant.
Non, je ne doute pas des compétences de Michel Parker, d'un
Robert.
Pardon.
Intéressant le mariage. Non, je vais la garder celle-là.
Monsieur Raymonda, m'excusez-moi.
Robert Raymonda et Michel. Non. Ah, on a à nouveau Michel en ligne.
Oui, de nouveau. Écoute, pour être sûr de ne pas être coupé, je vais passer les représentants de Sud de France et de la marque Sud de France, qui sont finalement presque les seuls Français présents et à présenter les vins du Languedoc. Je crois que Languedoc-Roussillon vraiment marque un point très fort en étant présent ici. Je te passe Christophe qui va t'expliquer pourquoi il est là, lui.
Oui, bonjour.
Bonjour, donc Christophe, va vous présenter Sud de France à Riora.
Alors oui, je suis Christophe Palmowski et en effet je suis consultant pour la marque Sud de France. Et on est à Logroño, donc au cœur de la Riora, au cœur des domaines espagnols qui fonctionnent très bien actuellement sur le marché, où cette manifestation, le Wine Future, qui, comme l'a dit Michel, représente plus de 1100 invités accrédités, nous permet d'avoir en un point de la planète la totalité des grandes personnalités du monde du vin. Donc si on parle au niveau des acheteurs, donc Justin Howard, de White Rose, Abigail Hirschfeld, de Direct Wine, c'est des gens... Mel Hirsch, donc qui représente Southern Wine, donc le plus gros acheteur américain, mais aussi de la presse exceptionnelle, donc Robert Parker est présent, Jean-Tis Robinson est présent, Robert Joseph, Steven Turier, donc il y a vraiment le Gotha mondial qui est présent ici en Espagne, et Sud de France a fait le choix de venir présenter ses vins. Donc on avait fait, sous le couvert de Dominique Laporte, meilleur sommelier de France 2004, une sélection de 72 vins sur 600 qui sont présentés, Et donc, on est ici en Rioja pour présenter 6 effervescents, 12 vins blancs, 6 rosés, 12 vins doux naturels et 24 vins rouges pour montrer donc 72 vins qui représentent vraiment la crème de la crème de ce qu'on peut trouver dans le Languedoc-Roussillon. Et ce qui est important, c'est qu'on est assez présent parce qu'avec 72 vins, donc 6 tables de présentation, on a vraiment une forte visibilité. Et on a surtout un retour, que ce soit de la presse internationale, de ses acheteurs internationaux, une véritable visibilité, une véritable découverte des produits de la région. Et c'est surtout un premier tremplin pour nous dans le cadre de la marque Sud de France, pour les préparer, pour les inciter aussi à venir nous retrouver dans le cadre de Vignes Sud au mois de février, du 22 au 24 février sur Montpellier.
On y sera, nous aussi.
On leur fait déguster des choses merveilleuses comme des Maury 1925, des Rivesaltes 74, ou si on prend des vins secs, par exemple le domaine de Montcalmès, des choses comme
c'est
ça.
La quatre...
De jolies choses.
La Catalogne à l'honneur avec Maury. Vous avez des résultats par rapport à cette présence? Vous attendez plutôt de la notoriété ou des commandes sonnantes et trébuchantes? C'est pas le lieu.
Non, parce que là, on est sous une ombrelle collective.
Ouais, ouais.
On est présent pour présenter collectivement les vins, mais bien sûr qu'on reprend. On a eu un acheteur ukrainien, deux acheteurs russes qui sont déjà passés sur le stand, à qui on va repasser les coordonnées au niveau des entreprises.
D'accord.
Donc oui, il y a du business qui se fait parce qu'ils reconnaissent des produits, ils veulent en déguster certains, ils savent réellement ce qu'ils veulent acheter. Donc on est le nouvel Eldorado du monde du vin et ça se voit bien parce qu'on est en Espagne, sur un des pays qui progresse le plus vite en termes d'exportation. Et quand ils arrivent sur cet espace France, sud de France, ils sont réellement surpris et de la qualité des vins et du rapport qualité-prix. Donc, dans le cadre de l'équipe Sud de France, on prend les éléments, les coordonnées, qu'on enverra bien sûr aux producteurs qui sont pas eux physiquement présents, mais qui ont été sélectionnés au niveau de cette dégustation.
D'accord. Bon, ben bravo, vous êtes nos représentants là-bas, et j'espère que vous allez faire en sorte que justement les continuer à faire un bon travail. J'en parlais avec un de nos invités, Henri Cabanel, qui est là, et on était d'accord sur l'action positive de la marque Sud de France. À l'export en particulier, à l'export.
Oui, la marque Sud de France, donc, elle est encore jeune, elle doit se bâtir. Une marque, ça prend toujours à peu près une dizaine d'années à mettre en place, quel que soit le produit. Là, on est sur vraiment un collectif d'une offre éclatée. Le vin, c'est compliqué, c'est un grand nombre de vignerons, c'est un grand nombre de problématiques différentes entre les grandes entreprises qui font des grands volumes et le petit propriétaire qui essaye de découvrir les marchés extérieurs. Ce type de formule, donc, permet de partir avec un grand nombre de vins, de ramener du résultat, donc tant en point presse qu'en possibilité de vente, donc et surtout d'affirmer une identité qui est la nôtre, Sud de France. Cette marque, elle doit se construire en termes d'image et on réussit ce genre de choses dans des événements mondiaux importants.
C'est très bien, le message est passé, je vous dis au revoir, bonne fin de Wine Future Rioja 2009 et puis saluez Michel qui est à côté de vous de notre part. À bientôt, merci.
Pas de soucis, à bientôt, au revoir.
Alors, j'entendais pendant que Christophe Molski parlait, il y avait Catherine Bernard qui faisait des mouvements de tête. Catherine, qu'est-ce qui se passe? Dis-nous. Exprime-toi, on est sur Divergence FM, tu peux dire ce que tu veux, tu sais.
Mais le Languedoc a cette particularité, soit de s'auto-flageller, soit de se flatter de manière assez outrancière,
sans distance.
Oh, c'est humain,
c'est humain.
Et ça, ce côté décalé, finalement, on parle toujours à côté de la chose.
Alors, c'était d'accord. Bon, on va revenir à toi tout à l'heure. il fallait le dire. On revient sur Parker, Anne. Alors bon, hein, Michel, il a l'air époustouflé. J'attends qu'il revienne pour qu'il me parle de ça. Il a l'air époustouflé par la dégustation de Robert Parker. Et non pas Michel Parker, mais celle-là, je la garde. Je la garde. On la signera Henri Cabanel. C'est pas mal.
Alors, ce qui m'époustoufle, moi, c'est que Robert Parker a choisi le Grenache et pas le Cabernet Sauvignon pour faire sa dégustation. Ça montre peut-être qu'il a conscience qu'il y a des choses qui doivent changer et qui sont en train de changer, à mon sens. Moi, j'ai l'impression, depuis un ou deux ans, de le ressentir dans les vins que je goûte depuis deux, trois ans. Avec des élevages en bois, sur le bois mieux maîtrisés, des vins plus digestes. Il faut savoir, enfin moi je vois vraiment l'influence de Parker comme le renforcement d'un mouvement de balancier qui nous a amené des années 70 où on avait de grosses productions et des vins assez dilués à aujourd'hui ou en tout cas à la décennie 2000 où on a eu quantité de vins beaucoup beaucoup trop concentrés. On est en train d'avoir un balancier qui à mon sens, je l'espère, revient vers un sens de l'équilibre qui nous a manqué et que Robert Parker ne nous a pas aidé à trouver. Parce que je vais pas parler de choc des civilisations, mais peut-être de choc des palais ou des gastronomies. Robert Parker, avec son système « je goûte en 10 secondes à l'aveugle un vin en donnant sa chance à tout le monde », j'aime des vins très expressifs. On parle de vins bodybuildés. Donc il faut qu'ils m'impressionnent en 10 secondes à l'aveugle. Ça donne des vins très très bien notés, très très bien vendus, qui deviennent des références, qui sont des vins qu'on goûte mais qu'on ne boit pas. Qu'on mange sur le mode anglo-saxon après le repas, qu'on déguste comme un porto ou comme une chose comme ça, mais en tout cas, surtout pas comme nous le faisons dans notre culture gastronomique française, à table, avec un plat, ces vins qui doivent nettoyer la bouche avec suffisamment d'acidité et de légèreté pour pas nous encombrer. C'est pas du tout le mode d'appréciation du vin de Robert Parker, et c'est ça qui nous a fait beaucoup de mal pour les producteurs qui se sont soumis à ces diktats.
Mais là, Anne, t'es en train de te dire « Ah, mais peut-être, moi aussi, je vais devenir une adepte de Robert Parker, parce que s'il se met à regarder du côté d'autres cépages, et pas toujours du Cabernet Sauvignon, je vais peut-être m'intéresser un peu plus à cette évolution chez Robert Parker. »
Je sais qu'en ce qui me concerne, un vin noté sur 100 déclenche immédiatement une immense méfiance de ma part, et que je sors la DCA et je l'attends au tournant.
Oh là là, ça va chauffer, ça va chauffer. Ben justement, ça va chauffer avec Catherine Bernard, qui en a marre qu'on passe du grand équerre à s'auto-flageller et ou à s'auto-congratuler. En même temps, qu'est-ce que tu veux? Comme je te disais, c'est humain, Catherine. On fera une émission entièrement là-dessus, une émission auto-flagellation dans le monde vitivinicole, ou alors carrément une émission totale où on se gargarisera. On pourra essayer ça. En attendant, toi, tu viens avec une revue de presse cette semaine. Et puis, une revue de presse avec un petit coup de haute couture, avec un certain Karl Lagerfeld qui fait parler de lui là, dans la presse ces dernières semaines.
Bien, plutôt qu'il ne fait parler de lui, c'est la presse qui le fait parler et ça fait un véritable buzz. Alors, parce que c'est Karl Lagerfeld, que c'est le couturier qui a rajeuni la marque de Chanel. Mais alors, il est interviewé très longuement dans Le Figaro pour son supplément vin et surtout dans la RVF, la revue française du vin, qui est la revue de référence en matière de vin en France. Et alors, ce qui est assez étrange quand même, c'est que Karl Lagerfeld l'avoue de lui-même, il ne boit pas d'alcool et donc pas de vin. Et son dernier souvenir de vin remonte à un anniversaire, on ne sait lequel. Et c'était deux verres de Château Yquem. Voilà, c'est bien modeste.
Oui, mais il peut avoir un avis sur... Oui,
il y a de pires anniversaires en même temps.
C'est vrai. Mais il peut quand même avoir un avis. En fait, lui, c'est pas tant sur le contenu que sur le contenant.
Et alors justement, c'est là où ça devient finalement pas si intéressant, parce que Lagerfeld a des mots pour parler du vin.
Allez, vas-y, dis-nous ce qu'il a dit.
Je vais vous citer. Il dit, par exemple, ce qu'il dit du vin. Il dit... Un vin, c'est magnifique comme un velours ou un satin. Le vin est une boisson précieuse, telle une pierre précieuse liquéfiée. Pas mal. Et surtout, il a une idée de ce que c'est que de la manière dont on pourrait revaloriser l'image du vin. À cette question-là, il répond : si je mettais le vin sur un piédestal, ce serait un piédestal translucide, lumineux, gai, drôle. Surtout pas une stèle funèbre. Actuellement, c'est sinistre. Le Père-Lachaise du vin, non, au secours. Les tas de vin, les cérémonies des confréries, c'est un peu la scientologie de la boisson.
Oh là là, comme il y va fort.
Il y va.
Oh là
hein.
Là. Ah là là, c'est jet set. Hein. Vas-y, continue, qu'on s'amuse un peu.
Je continue parce qu'il enfonce le clou, toujours dans la RVF. Il dit « Il faut renoncer au discours trop docte, trop sérieux sur le vin ». Je vois des gens à table faire tourner leur verre, le humer 15 fois, prendre de ses airs sérieux. Toute cette liturgie sonne comme une excuse pénible. Ce grand tralala donne un effet de bâillement au vin qui doit au contraire euphoriser. Vous en voulez d'autres ?
Ouais, allez, vas-y, jette-nous-en une petite encore.
Et alors, il termine. À propos de notre fameux débat sur le national sur le vin, sur le qui serait cancérigène, la loi E20, enfin, etc. Il dit « La France est la terre du monopole de l'hypocrisie en ce domaine. Je suis contre le côté donneur de leçons de cette loi relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme qui interdit la publicité sur le vin en France. Vu de l'étranger, cette loi fait rire. »
Il a un peu raison.
Henri Cabanel. Henri Cabanel prend position. Henri Cabanel, lui, quand Anne Serre devient une adepte de Robert Parker, Henri Cabanel, c'est un adepte de Karl Lagerfeld.
Non.
J'exagère.
Je dis qu'il a un peu raison sur les dernières remarques que vient de faire madame, parce que il y a beaucoup d'hypocrisie, effectivement, sur cette publicité que l'on ne peut pas faire en France, parce que on nous dit, effectivement, que notre solution, c'est d'exporter le vin. Comment voulez-vous, en étant diabolisé comme il l'est en France, qu'on puisse exporter un produit qui nous est cher, qui fait partie de notre patrimoine, en disant, il est d'excellente qualité, vous pouvez le boire, tout ça. Eux, ce qu'ils nous répondent à l'extérieur, à l'étranger, ils nous disent, mais attendez, vous le diabolisez. En France, si vous voulez nous le faire goûter, ça ne marche pas. C'est pour ça qu'il a un petit peu raison.
C'est ce qu'on appelle une dissonance cognitive en psychologie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la presse ces derniers temps?
Justement, ça fait le lien sur notre identité nationale, et vous n'êtes pas sans savoir que le président a lancé un débat sur l'identité nationale.
Ah bon?
C'est dans la presse. Et Cécilia Gabizon du Figaro, elle s'est procuré les 200 questions envoyées par le ministère de l'immigration au préfet dans le cadre de ce débat. Et alors, elle croit comprendre, elle croit y lire dans ces 200 questions que la France est une grande nation gastronomique charnellement liée à ses vins. C'est en tout cas ce que suggère, dit-elle, le guide envoyé par le ministère au préfet. Elle cite quelques questions. Est-ce que nous avons fait ensemble et ce que nous voulons faire ensemble qui nous lie, ou cet art culinaire que le monde nous envie? Nos clochers signent-ils notre identité comme nos églises et nos cathédrales, interroge le guide. Où serait-ce notre patrimoine, notre culture, notre paysage, notre langue, notre agriculture ou encore notre industrie qui forge notre spécificité? Voilà, c'est dans le Figaro, dans le cadre du débat de l'identité nationale, et je trouvais que c'était pas inintéressant dans le cadre de cette émission Culture 20.
Absolument. Bon, si tu veux parler de l'identité, moi je pense que c'est un débat sur, et je ne suis pas le seul dans la presse à penser ça, c'est un débat sur l'immigration, pas sur l'identité nationale.
Nous sommes assez d'accord.
C'est un débat sur, quand on parle des clochers, c'est on a peur des minarets, il faut dire la réalité, hein. c'est ça.
Disons que j'ai vu un certain côté des choses.
Ouais. Bon, mais ça je crois qu'il y a un côté dans c'est quand on dit il faut être fier d'être français, moi je suis fier d'être français, mais je suis pas fier de ce qui s'est passé en 14-18 quand on fusillait les soldats qui allaient pas au combat. Je suis pas fier de plein de trucs et je suis fier d'autres trucs. Ça fera un œuf poché ce truc, et puis voilà. Passons à autre chose. Dans la presse, alors, à part Karl Lagerfeld, on parle pas de vin.
Ah si, bien sûr. Parce que bien évidemment, il n'y a pas qu'à Karl Lagerfeld à regarder les mots du vin. Il y a le Harper's Magazine. Donc le Harper's Magazine est un grand journal américain, et c'est toujours intéressant d'aller voir ce que les Américains disent de nous. Et c'est donc le journaliste David Williams qui a été allé demander à 5 grands noms de l'industrie du vin au Royaume-Uni. Il faut savoir que le marché britannique est un marché test pour le vin. Ce qu'il faudrait faire pour améliorer la situation des vins français à l'export. Ils ont leurs recettes, ces gens-là.
Ah, on écoute.
Mais en fait, non, c'est un très très long article que je vous invite à lire. Néanmoins, j'ai choisi moi simplement ce qu'ils disent du Languedoc-Roussillon, parce que finalement, nous y sommes
carrément
aujourd'hui. Donc voilà. Et donc voilà, en gros, ce qu'ils disent. Ils disent que c'est la région la plus touchée par la crise vinicole.
D'accord.
Je pense que là, c'est bon.
Oui, c'est vrai. Oui.
Et il compare la crise que traverse notre région à celle qui a marqué le Royaume-Uni dans les derniers jours de l'industrie lourde dans les années 70 et 80.
80, c'est Thatcher. Hein. C'est le cassage de l'industrie et la mise en place de la City à Londres. Hein.
Je pense qu'il ne faut pas exagérer non plus. Quoi. Mais
c'est un Américain, oui. Grégory, forcément.
Il ne connaît pas le peuple vigneron et la fierté qu'il a, parce que je suis sûr que ça sortira.
Hein. Vous voulez que je poursuive?
Il y a le peuple vigneron.
Parce que ça devient intéressant. Ils disent, d'un côté, il y a le protectionnisme de gauche, plus visiblement représenté par les activistes du CRAVE, qui continuent d'appeler l'aide de l'État et à la protection des producteurs en difficulté. De l'autre, se situent des producteurs, Estelle Carnot-Fabre, propriétaire du château d'Angle, terroir de la Clape, qui appelle à une libéralisation à large échelle de l'industrie, incluant la privatisation et la fusion des grosses coopératives afin de créer des entreprises de taille comparable à celles du Nouveau Monde. Entreprises avec les moyens de produire des marques à fort volume. La crise globale actuelle démontre clairement que les pays occidentaux ne doivent pas abandonner leurs industries clés, raconte Fabre. Je cite toujours.
Il te reste 30 secondes.
Eh bien...
Alors, je vais te dire un truc. On fera une émission rien que sur ce sujet-là. Parce que s'il faut privatiser les caves coopératives, là je sens que ça va bouillir dans les vignobles. Là, il y a du boulot.
Il y a de la discussion
déjà,
dans l'air.
Henri Cabanel était là. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais qu'est-ce que c'est que cette émission? On me parle de Parker et maintenant on veut privatiser les caves coopératives.
Non, ce qui est intéressant, c'est quand même que ces gens-là, c'est les Américains vus d'Amérique, voilà ce qu'ils retiennent du Languedoc-Roussillon.
Oui, mais c'est des libéraux nés. Et on sait où nous a mené le libéralisme dans la crise financière que nous connaissons.
On rappelle qu'Henri Cabanel est un élu socialiste.
Oui.
Comme ça, au moins, ça sera clair.
Ça, c'est fait.
Alors, vous savez, une heure, ça passe vite. On est déjà au terme de cette émission. Je vous remercie, Henri Cabanel, d'être venu nous parler de ce qui se passe dans l'Hérault. Vous êtes bien placé pour le savoir. Merci Grégory qui vous occupez de l'Observatoire viticole. Merci Anne Serre qui va... peut-être virer sa cutie avec Robert Parker, j'exagère à peine.
C'est décidé.
Merci Catherine Bernard qui, décidément, il faut absolument qu'on fasse toute une émission spécialement sur la flagellation dans le monde viticole
le
dans le sud de la France. Le pathos, voilà. Le vin et pathos, ça fera un super sujet. Merci à Eli El Kalim qui a réalisé cette émission. Et merci évidemment à Florent Robin, notre littéromane maison. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.